Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Bonjour Mathieu V et Alexandre III.
Bonjour.
Bonjour.
Alors oui, l'état de la presse, hein, comme je le disais, est tel qu'on est devenu des remplaçables, comme dans le film Mickey 17, en route vers une colonie de l'espace, mais ça nous empêche pas de faire une réunion de rédaction quand même. Et on s'était dit que c'était justement l'occasion de revenir sur la carrière de Bong Joon-ho. Alors depuis la semaine dernière, Mathieu est décédé une nouvelle fois d'un rhume foudroyant. Et Alexandre, toi tu en es à ta troisième version après avoir parié ta vie sur ta victoire au dernier tournoi locaux de Mario Kart, et ça s'est pas toujours bien passé.
Par contre, je t'arrête tout de suite, je suis Jabo 6.
Jabo 6.
Puisque Alex, c'est à moi qu'il a parié sa vie sur Mario Kart.
Ah, très bien, très bien, très bien. Alors, Bong Joon-ho,
vraiment, il prend la confiance, tu es dingue, quoi. On l'a pas vu en Mario Kart depuis des mois et il croit qu'il peut me battre.
Alors, Bong Joon-ho, on l'a définitivement célébré en 2019 avec le succès mondial de Parasite et on y reviendra. Mais on peut justement parler un peu pour cette deuxième réunion d'une expansion internationale qui commence avec Snowpiercer en 2013 et c'est un peu ce qu'on va voir ensemble. Alors, même si tous les films ne sont pas américains pour en parler, mais on peut dire que c'est le moment où Bong Joon-ho se tourne vers Hollywood ou du moins vers un public plus international. Et donc voilà, ça commence avec Snowpiercer qui sort donc en 2013, adaptation d'une BD française de Jacques Loeb au scénario et de Jean-Marc Rochette et qui raconte donc dans un futur dystopique qui est revenu à l'ère glaciaire, comment les derniers humains subsistent dans un train à grande vitesse, avec du coup tous les pauvres qui sont parqués à l'arrière du train et qui vont essayer de lancer une révolution pour pouvoir atteindre la locomotive et reprendre le contrôle du train. Et moi, j'adore absolument ce film.
Oui, moi aussi. Je profite de prendre la parole parce qu'ensuite, il y a Alex qui va débarquer.
Bah, t'es débile, pourquoi il n'y a pas assez de wagons
ouais, je pense que ça inaugure un peu une forme de diptyque, on va dire, entre guillemets, dans la carrière de Bong Joon-ho, de films métaphoriques. Ouais. Extrêmement explicite, mais extrêmement pertinent. Moi, j'aime beaucoup Snowpiercer. Alors, juste après ou juste avant, je ne sais plus, il y avait Elysium de Neil Blomkamp.
La même année.
Waouh.
La même année, je crois.
Magnifique. Et bien, c'est dingue parce que Snowpiercer fait tout ce que Elysium n'est pas. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a un rapport social, etc. Oui, évidemment, il y a une révolution. Mais déjà, il y a une mise en scène qui est hyper intéressante vis-à-vis de ça. Je sais, Antoine, que tu as fort étudié la question,
oui.
Donc je te laisserai la parole. Et évidemment, il y a une conclusion également qui est, je trouve, d'une pertinence absolument incroyable, quoi. Ça fonctionne trop bien. Il y a vraiment de la nuance, finalement, dans ce qu'il raconte, notamment avec le personnage de Song Kang-ho, qui est vraiment caractérisé comme un addict, hein, et qui est finalement le mec le plus lucide de ce putain de train. et ça, c'est intéressant de pas toujours se baser sur les archétypes, etc. Alors, il y en a dans Snowpiercer des archétypes, notamment celui de Chris Evans, mais justement, on en a déjà parlé, c'est ça qui fait la beauté de ces films-là, de Bong Joon-ho, de cette période-là, c'est qu'il prend des tropes américains, hein, clairement, des personnages tels qu'on a l'habitude de les voir. Alors en plus, là, il a pris Captain America en personne et il les détruit à la pioche, on peut le dire.
Bah, il y a ce truc merveilleux, donc effectivement, tu parlais de mise en scène, donc il y a évidemment cette idée dans Snowpiercer, la pure film d'horizontalité, hein, là, pour le coup, tu peux pas faire mieux avec ces wagons qu'il faut remonter et que lui gère dans un side-scroller de jeu vidéo, hein, presque, dans certaines séquences, avec cette idée vraiment de la gauche vers la droite, donc d'une progression supposée face à la résistance qu'ils ont de l'avant du train qui donc va de la droite vers la gauche, donc l'idée d'une régression et de cette confrontation qu'il y a entre les deux. Sauf que ce qui est non seulement merveilleux, c'est qu'il te montre à travers cette progression que le personnage de Curtis, donc Chris Evans, a des choix à faire et de vrais dilemmes moraux qui s'expriment vraiment par, mais comme dans un jeu Telltale Games, quoi, c'est genre choisis la gauche ou la droite,
ouais.
Avec notamment cette scène géniale où il doit choisir de secourir son ami de toujours qui est Jimmy Bell,
Tintin, ou
d'aller choper Tilda Swinton qui est en train de s'échapper à ce moment-là et qui lui permettrait de progresser dans le train pendant la grosse bataille et qu'il a un choix à faire et que tu le vois vraiment tourner la tête et ça va tout définir. Et qu'en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque fois plus il progresse en pensant qu'il va vers cette restauration d'une humanité qui n'est plus là, en réalité, c'est quand il regarde en arrière vers la gauche qu'il est ramené à son humanité en fur et à mesure du film. Et ce que le film fait de merveilleux, comme tu l'évoques là, c'est qu'en fait, les rares moments où la caméra revient de face vers lui, et souvent par du travelling circulaire d'ailleurs, en passant du profil vers le face, c'est le moment où t'as la vraie personnalité qui se révèle jusqu'à donc ce twist incroyable où ce mec qui refuse tout le long d'être le leader politique et le leader révolutionnaire qu'on lui demande d'être, t'explique qu'il ne voulait pas l'être parce que bah lui aussi, quand ils sont entrés dans le train et qu'il a fallu subsister, bah ils se sont mis à peut-être manger des gens et peut-être notamment manger des bébés. Et que t'as ce... Enfin, la meilleure scène de la carrière de Chris Evans, hein, qui est un acteur que je trouve très talentueux mais qui choisit souvent très mal ses films, qui a tout simplement une scène merveilleuse, voilà, en pure face-à-face avec le personnage Song Kong-ho, où il lui explique cette réalité-là, quoi, de ce qu'était l'arrière du train et de les horreurs qu'ils ont faites, et notamment d'avoir failli manger Jimmy Bell quand il était bébé.
Le concept de consommer un bébé qui va ensuite se vérifier dans ce... En fait, ce faux twist, voilà, qui est le résultat de l'analyse, évidemment, de ce que c'est que la société capitaliste par Bong Joon-ho, qui reste hyper pertinente également, enfin par lui et par la BD d'ailleurs, qui est que bah, c'est l'illusion d'une machine perpétuelle qui, en fait, n'en est pas une du tout. Et la solution proposée par le film, c'est rien de moins que l'anarchie, hein, faire exploser le modèle social. Voilà. Ce qui est quand même très 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 loin du statu quo habituellement proposé par les films hollywoodiens, et qui d'ailleurs était le statu quo qui sera proposé ensuite par la série toute pourrie de...
Netflix.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas Netflix qui l'a fait,
c'était
mais voilà, c'est ça. Mais il a diffusé fut un temps en France, jusqu'à ce que d'ailleurs la dernière saison disparaisse totalement des radars.
Aucune idée de ce qu'est devenu.
Voilà. C'est pas plus mal.
Mais c'est vrai que tu parles de ça, mais c'est du coup aussi ce que évoque le film, et c'est peut-être ce sur quoi Alex sera moins d'accord que nous, c'est qu'effectivement, plus t'avances dans cette progression du train, plus chaque wagon assume d'être vraiment... Enfin, il n'y a plus de logique fonctionnelle de comment fonctionne ce train, en fait. Enfin, les gens, tu sais pas trop où ils logent. Enfin, t'as le jacuzzi, t'as le hammam, t'as le truc à sushi, mais en fait, tu te dis, mais ces gens-là, ils crèchent où, du coup?
Parce qu'il n'y a plus que des lieux de fête et de détente, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve le grand génie du film, c'est qu'il te montre effectivement que si le capitalisme repose par essence sur l'inégalité, là, en fait, ça a été designé comme tel. En fait, enfin, le train a été designé pour ça. C'est pas un truc qui s'est fait de manière empirique comme tu pourrais le penser. C'est que le train a été vraiment designé pour ça, et ça amène... Alors, il y a eu plein de très très belles réflexions sur Snowpiercer, et je me suis un peu penché sur cette question-là. Beaucoup de gens qui, en fait, citent des philosophes de maintenant, notamment sur la question du capitalisme et du libéralisme incontrôlable, en revenant à ce film-là. Et une phrase que j'adore, parce que pour moi, ça définit totalement, je pense, le cinéma de Bong Joon-ho, mais particulièrement ce film-là, qui vient du philosophe Slavoj Žižek. Voilà, je l'ai bien dit du premier coup. Qui disait, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. Comment on nous fantasme tellement de l'idée que le capitalisme n'a pas d'alternative possible, que de toute façon, c'est plus simple d'imaginer. Donc là, littéralement, l'ère glaciaire qui a fait perdre l'humanité, et les derniers survivants sont quand même contraints de rester chevillés à ce système-là, comme si c'était le seul système possible. Et comme tu dis, voilà, la seule solution que propose le film, fatalement, c'est de tout faire péter.
Solution ou fausse solution, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'espoir à la fin avec cette histoire d'ours blanc. Bon, déjà, si tu vois un ours blanc, il y a peu d'espoir pour toi en général. Mais en plus, bon, si tu réfléchis un peu à ce qui se passe, enfin, vraiment, le crash du train, les trois quarts des wagons se font exploser, il y a quand même peu d'espoir pour la rédemption de l'humanité.
Ouais. Et toi, Alex, du coup, après qu'on ait parlé de tout ça.
Non, mais c'est en fait, je suis critique envers le film. Alors attention, je l'aime bien, le film. Je sais pas que je le trouve mauvais, enfin, pas du tout. Ça reste extrêmement bien réalisé, mis en scène, et il y a vraiment des superbes idées. Moi, j'adore, en grande partie, tout le premier acte, on va dire, quand ils essayent de sortir de leur wagon à eux, on va dire. Donc, toute la mise en place, comment ils jouent avec les espaces, on voit vraiment, en fait, qu'ils sont agglutinés les uns sur les autres, et on comprend cette envie de se libérer aussi d'une forme d'enfermement qu'ils subissent. Pour le coup, tu peux même pas, en plus, parce que dans la vraie vie, on va dire, dans notre vie actuelle, même si tu te sens pas bien chez toi, etc., t'as une possibilité de quand même trouver une forme de liberté en allant te promener, en allant machin. Eux, ils sont toujours enfermés, et en plus, ils doivent subir l'ensemble de tout ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire, ils sont choisis un peu par hasard pour faire des tâches dont ils n'ont aucune vraiment connaissance de ce qu'ils vont devenir par la suite. Ils doivent bouffer quelque chose, ils savent pas vraiment ce que c'est. Ils doivent crécher ici parce qu'en fait, c'est comme ça, et ils peuvent essayer de se rebeller, mais on saura à la fin du film qu'en fait, cette rébellion n'est qu'une forme de répétition d'un cycle qui permet de rester dans le statu quo final par rapport au personnage de John Hurt, donc.
Ouais, et de Ed Harris.
Et de Ed Harris, évidemment, qui gère le train, du bon côté du train, on va dire.
Fait partie de la construction dont tu parlais, qui a été pensée en amont selon le système.
Bah oui, parce que c'est lui le designer du train, du coup.
Oui, clairement. Et donc, ça, moi, je trouve que c'est assez passionnant, etc. C'est par la suite que je comprends moins, en fait, votre amour du film, parce que j'aime beaucoup tout ce que ça raconte, mais j'aime pas du tout la manière dont il le fait, notamment dans, du coup, cette progression du train qui me paraît un peu vaine par rapport à tout ce qu'elle pourrait raconter. Il y a des super passages, notamment ce passage à l'école, donc qui parle clairement dans une salle de classe d'ailleurs, plus que dans une école, mais qui parle vraiment d'une sorte de, pas de brainwashing, mais
d'endoctrinement.
Voilà, merci, d'endoctrinement, c'était le mot que je cherchais. Et qui est assez beau, notamment en plus, enfin, cette forme de on fête cette nouvelle année parce qu'on passe à un endroit, mais en fait c'est le même endroit et on n'a pas bougé finalement, on est toujours de la même manière. Et il y a quelque chose qui fonctionne bien et aussi ce que ça provoque derrière. Donc c'est pas parce que les personnages font semblant d'accepter cette petite rébellion qui est en cours qu'ils vont la laisser courir comme si de rien n'était, d'où ces armes qui sont plus ou moins cachées, ensuite cette destruction d'une grande partie de la classe populaire, voire pauvre d'ailleurs. Plutôt. Et tout ça, j'aime bien, mais c'est le problème, c'est que je trouve que le film, du coup, marche un peu trop par séquence et par scénette que sur son ensemble. Mmh. On a une progression dans le train, donc il y a en effet tout ce passage avec les gars qui sont là pour, avec des haches et des trucs pour casser
passage
tout le monde.
Incroyable.
Passage absolument inintéressant.
et un poisson que par la suite, on t'explique comme faisant partie d'un écosystème réglé au millimètre, mais la scène d'avant, les mecs, ils ont égorgé un poisson juste pour menacer leurs adversaires. Encore une fois, que des détails, je trouve, qui trahissent une forme de machine grippée, de ce truc-là, de dilution, de cycle perpétuel. Donc voilà, l'écosystème de l'aquarium, la machine, qui en fait est utilisée n'importe comment, quoi.
Non, mais du coup, je trouve le film très beau et assez passionnant dans ce que ça raconte, mais surtout au début, donc ce besoin de rébellion et pourquoi on doit la faire, parce qu'en fait, c'est notre seul moyen. Il n'y a pas une question de on va pouvoir s'en sortir par une forme de démocratie et de renouvellement. C'est le renouvellement va passer par une action, par une rébellion, parce qu'il n'y a plus le choix, en fait. Et toute la fin de la révélation de, en fait, ce système marche parce que on accepte qu'il marche de cette manière. Et c'est soit tu l'acceptes, soit tu dois le détruire. Et donc après, il y a ce choix final, etc., qui est un peu ambigu quand même, parce que la personne qui est censée faire le choix ne fait pas vraiment le choix, le personnage de Chris Evans. Et je trouve ça intéressant de la manière, c'est pas juste ambigu c'est pas blanc ou noir et tout se passe comme si, machin. C'est beaucoup plus gris et c'est cette zone que je trouve plus intéressante dans le film que sa progression un peu calamiteuse de on passe de wagon en wagon, on m'expliquera pas vraiment comment fonctionne le train outre mesure, etc. Et... Je trouve ça pas spécialement passionnant.
Parce qu'au fond, je pense qu'on s'en fout, en fait.
Oui.
Et puis lui, il s'amuse, pour le coup, de trucs de vrais films de train un peu kiffants, la scène de fusillade avec, du coup, le train qui est dans le virage, donc les mecs peuvent se fusiller dans l'extrême à l'autre.
C'est génial,
ça, comme séquence. C'est trop bien. Mais moi, j'avais fait une réflexion, en revoyant le film, je m'étais fait une réflexion que je m'étais pas faite avant, c'est que il y a tout ce truc qui est montré au début du film que, aussi, ces classes pauvres n'ont pas de fenêtre.
Oui,
ça, ça. Ils peuvent pas voir le dehors.
Très bonne idée.
Et truc, du coup, qui t'est révélé quand ils voient, et c'est vrai que tu te fais même pas la réflexion que la première fois qu'ils voient le jour dehors, ça les éblouit et tout ça. Sauf qu'en fait, quand t'arrives vers l'autre extrémité du train, t'as pas plus de fenêtres, en fait. Enfin, les mecs, notamment en boîte de nuit, et les gars qui se droguent et qui vivent dans une sorte d'hédonisme total, sont tout aussi aveugles face à la situation. Et c'est le cas aussi, d'ailleurs, du grand Manitou de Ed Harris dans sa locomotive toute chromée, mais qui n'a rien d'autre. Ce qui est intéressant, c'est justement quand t'arrives à l'école, où en fait, c'est là que t'as des fenêtres, un peu avant aussi et après, où en fait, c'est vraiment la classe moyenne qui t'est montrée comme étant, en fait, la plus dangereuse de tous les côtés. Parce qu'en fait, c'est celle qui peut être la plus facilement endoctrinée, qui pourrait être celle qui défendra le système, ce que tu vois avec la prof en particulier. Mais en même temps, c'est grâce au fait que cette classe est justement au milieu qu'elle peut avoir la possibilité, si elle le veut, d'apprendre à sa descendance comment évoluer. Et tu le vois à travers le personnage de Song Kang-ho qui explique à sa fille, regarde dehors comment on analyse la neige pour voir si la neige a fondu. Je te montre ce qu'est la terre, comme ça tu vois comment ça fonctionne, c'est quoi la nature. Il lui montre ce qu'il y a en dehors du train. Et il y a ce truc là que justement qui moi fait que j'y crois à cette zone d'espoir qui te donne à la fin. C'est que les deux seuls survivants, donc c'est elle et le petit gamin qui sont donc ce qu'ils appellent dans le film des train babies, donc des enfants nés dans le train qui n'ont connu que ce système-là. Et en fait, en leur montrant qu'il y a une alternative, parce que eux n'ont connu que ça, et on leur a fait péter ce monde-là, en fait, leur seule solution, c'est de créer autre chose. Et donc là, peut-être quand même qu'il y a cette possibilité-là, plutôt que Chris Evans qui se dit qu'ils peuvent changer le système, mais tout en gardant la trame, étant finalement qu'un rouage qui va faire perdurer ce système-là.
Ouais.
Pour moi, c'est là que le film est absolument merveilleux et vertigineux.
C'est assez joli par ailleurs de. De toute façon, on a spoilé tout le film, mais je trouve de choisir de terminer cette forme de renouvellement et donc de recréer une forme de vie par rapport à ça avec deux, entre guillemets, minorités qui sont pas du tout blanches comme pourrait le faire Hollywood, mais un jeune afro-américain et une jeune asiatique coréenne. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir fait ce choix-là plutôt que le grand messie blanc que serait Chris Evans, représentation ultime d'une forme de Captain America dans le système hollywoodien. C'est plutôt intelligent.
Et c'est ce qui est important à préciser aussi, c'est que du coup, donc, on parlait donc de cette évolution de Bong Joon-ho vers international. La Snowpiercer, c'est pas un film américain, contrairement à ce qu'on pouvait penser malgré ses têtes d'affiche. C'est vraiment un pur film coréen qui a eu le soutien d'aide européenne et qui s'est majoritairement tourné en Europe puisqu'ils ont tourné en République tchèque. Parce que c'est là que t'as les plus grands studios en Europe qu'on a, les plus larges, surtout parce qu'en fait, ils avaient construit 4 wagons sur un système en plus de poulies qui permettait de simuler le mouvement du train. Et ils avaient 26 décors qui changeaient en permanence, du coup, avec ces 4 wagons d'affilée pour pouvoir, te faire comprendre l'évolution du train et du passage d'un wagon à l'autre. Ce que je trouve déjà assez assez exceptionnel. Mais du coup, donc pour l'époque, c'était le budget le plus cher de l'histoire du cinéma coréen. Donc bravo Bong Joon-ho qui avait en plus le soutien de Park Chan-wook et de sa boîte de prod à l'époque dessus. Et il y a aussi un autre truc, je pense, qui est important de préciser parce qu'on l'a pas évoqué sur la première réu, mais c'est la méthode de tournage de Bong Joon-ho qui, et ça beaucoup en parle, et surtout sur Snowpiercer, de la précision de ses storyboards et du fait qu'il ne tourne quasiment que ce dont il a besoin sur le plan. C'est-à-dire, il va jamais faire en fait ce que beaucoup font aux États-Unis notamment de coverage, comme ils aiment le dire. Hein. Tu mets plusieurs caméras, tu tournes ta séquence en entier pour que les acteurs aient le temps de s'investir émotionnellement dans toute la séquence et tu verras après ce que tu gardes au montage. Lui, il te dit juste j'ai besoin de telle réplique avec cet angle-là. On fait que ça. Et pour certains acteurs, c'était pas toujours très simple, mais surtout les acteurs anglo-saxons qui étaient dans ce système-là ont appris cette méthode-là et ont trouvé ça en fait hyper cool parce que hyper précis. Et c'est marrant parce que Mark Ruffalo en particulier en parle beaucoup sur Mickey 17 aussi de ce système-là, mais en disant finalement que c'est hyper galvanisant pour un acteur de voir être vraiment dans l'instant présent et de voir quasiment en direct le monteur de Bong Joon-ho en fait pouvoir assembler les plans et pouvoir montrer très tôt déjà un premier montage en fait. Ce qui faisait que sur Snowpiercer, quand ils avaient des doutes sur ce qu'était ce film, un peu Arche de Noé avec du coup, enfin c'est ce que raconte le film et c'est comme ça que le film est tourné avec ce casting international, cette équipe internationale aussi, mais en fait très régulièrement, chaque fin de semaine, Bong Joon-ho montrait ce qu'ils avaient tourné en fait aux équipes, ce qui a fait que notamment les acteurs américains étaient hyper galvanisés par ce qu'ils voyaient en se disant ok, ça va être un très bon film parce qu'on voit le potentiel de ce qu'on a sous les yeux en fait. Et donc ça, je trouve ça quand même assez cool et ça va beaucoup revenir, on en reparlera sur Mickey 17, mais c'est aussi très important je pense dans sa méthodologie de tournage.
Et peut-être ultime preuve que c'était un film qui était pas assez hollywoodien, on va dire, pour être vraiment hollywoodien. Quand il est sorti aux États-Unis, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment avec les Weinstein qui lui ont posé plein de remontages, l'affaire a pris des plombes et finalement le film a été repoussé un paquet de fois incalculable pour qu'il réussisse finalement, je crois, il me semble, à montrer une bonne version aux États-Unis, je ne sais plus.
Oui, alors à le montrer dans la bonne version, parce qu'en fait finalement Bong Joon-ho avait validé son film en projection test beaucoup mieux marché que les montages imposés par les Weinstein, mais du coup les Weinstein en contrepartie l'ont sorti sur un taux de salle tellement réduit que en fait le film était voué à bider là-bas. Et c'est ce qui s'est passé globalement.
Et j'ajouterai enfin, pour faire le lien avec le film d'après, que j'adore moi personnellement la séquence où Song Kang-ho et Chris Evans se joignent pour protéger les deux personnages au milieu, qui est un peu le sel du film, puisque si vraiment en caricaturant on considère l'insurrection de Chris Evans comme une forme de révolution prolétarienne et le militantisme on va dire de Song Kang-ho comme de l'anarchie, il voit vraiment les milieux contestataires comme finalement des choses qui sont forcées de se sacrifier pour préserver ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire une sorte de nouvelle génération, et c'est elle qui doit apprendre à vivre en dehors, donc dans ce cas-là, du système capitaliste ou spéciste.
Oh là là, quelle transition incroyable pour en arriver à Okja, donc sorti en 2017. Et là, pour le coup, donc vraie coproduction entre la Corée et les États-Unis, film qui sera distribué par Netflix, qui posera quelques soucis d'ailleurs. Là aussi, budget assez confortable, puisqu'il a 50 millions de dollars de budget, donc c'était en tant que film coréen l'un des plus importants de l'époque. Et effectivement, donc avec une jeune fille qui doit s'occuper d'une créature un peu bizarre, mi-cochon, mi-totoro, mi-je sais pas quoi, mi-hippopotame, qui... De quoi ?
J'avoue,
oui, voilà, c'est à peu près ça. Et qui, évidemment, voit cette créature se faire reprendre par ses plus ou moins propriétaires, qui doivent l'emmener à l'abattoir, tout simplement. Et évidemment, elle va tout faire pour empêcher que ça arrive.
Tel Tom Cruise, on peut le dire. J'ai vu avec ma copine qui l'avait jamais vu, et la séquence de poursuite quand elle saute sur le camion sur le et camion. Tout, elle disait, mais c'est Tom Cruise, quoi. C'est Mission Impossible, le truc. Mais elle a 8 ans.
C'est un peu ça, effectivement. Alors moi, j'avoue que je l'ai pas revu depuis Cannes, où le film avait notamment été l'un de ceux qui avait amené le fameux débat sur les sorties de films Netflix au cinéma ou pas, puisque donc Netflix avait dit que non, aux États-Unis et ailleurs, ils sortiraient directement sur Netflix en même temps que sa sortie sale, donc ça avait amené le fameux débat. Ce qui avait en fait un peu éclipsé le film en lui-même, ce qui est presque dommage, parce que du coup, moi j'avais trouvé, je continue de penser que c'est un de ses plus bordéliques, ce qui ressortira peut-être un peu sur Mickey 17 aussi, mais ça reste un film hyper intéressant sur plein d'aspects quand même.
Ouais, je prends la parole avant Mathieu, parce que je sais que Mathieu va louer toutes les qualités de ce film, mais je pense que ça ferait une bonne transition de suivre ce que tu dis, Antoine, parce que tu dis que t'en as un souvenir lointain puisque tu ne l'as pas revu depuis Cannes, et il me semble que tu l'apprécies du coup comme sans l'apprécier, on va dire. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour toi un des plus faibles. Ouais. Voilà. Je pensais à peu près la même chose que toi avant cette réunion, parce que je l'avais pas revu. Alors, je l'ai pas vu à Cannes, mais je l'avais vu juste après Cannes quand il est sorti sur Netflix.
Le film à Cannes.
Je l'avais pas vu. J'étais pas encore à Cannes cette année-là. J'arrivais un peu plus tard, donc je n'ai pas vu. J'ai vu le seul autre film Netflix qui était en compétition avec Okja à Cannes, c'était The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach. C'est les deux seuls films Netflix et depuis on n'a pas eu en compétition. Mais du coup non, je l'avais raté. Et donc je l'ai vu sur ma télé à l'époque. J'avais été gravement déçu, gravement. J'emploie un terme un peu too much, mais j'étais quand même même assez déçu par rapport à ce qu'il y a eu quand même de beaux retours à Cannes, pas genre dithyrambique, mais le film était quand même plutôt apprécié par rapport à tout ce qu'il racontait, etc. Et moi, j'étais un peu passé à côté, a priori, puisque quand je l'ai revu, maintenant, j'ai trouvé que le film était plutôt très réussi, en fait. Non pas, en fait, j'aurais un peu les mêmes critiques que Snowpiercer, dans le sens où on en discutait avec Mathieu, mais je trouve que chez Bong Joon-ho, ce que je préfère, c'est finalement la destination plutôt que le voyage.
Ok.
Vraiment. Donc, dans Snowpiercer, c'est vraiment le cas, pour le coup. En plus, on parle d'une vraie forme de voyage. Mais dans Okja, en fait, je trouve que le début est vraiment formidable. En fait, on est une forme de, en fait, on est quasiment au paradis, quoi. Je trouve. Le tout début, c'est vraiment.
Oui. C'est vraiment Totoro, hein. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit. C'est vraiment Miyazaki version live action.
C'est l'utopie qui est aussi dans une idée que se fait l'Occident d'une certaine Asie, en fait, aussi.
Oui. Ouais. Mais du coup, on est vraiment dans une forme de paradis qui va se confronter à la réalité qu'elle refuse de voir, ou en tout cas qui est pas là où, enfin, en gros, le paradis va devoir rencontrer l'enfer du capitalisme et de plein de choses, etc., pour caricaturer. Mais tout ça, c'est vraiment sublimement fait dans la manière dont est racontée l'histoire par rapport à la gamine qui est jouée par Han Seo-yeon. Voilà. Désolé pour elle. Désolé pour elle. Et en fait, tout le parcours par rapport à ça, donc jusqu'à ce que Jake Gyllenhaal débarque un peu dans leur village pour récupérer le cochon, pour expliquer pourquoi, machin, parce que c'était un concours, blablabla, il fallait élever un cochon, machin. Et quand son grand-père lui raconte la vérité du pourquoi ils ont élevé ce cochon et pourquoi ils sont venus le récupérer, il se passe en fait un truc vraiment profond dont je me souvenais pas par rapport à toute cette émotion qu'elle a mis. En fait, elle a perdu toute sa famille, plus ou moins, je sais plus pourquoi, ses parents sont plus là, mais il me semble que c'est parce que tout simplement ils sont décédés, et donc elle vit avec son grand-père. Et en fait, la seule attache qu'elle a vraiment à la vie, et la seule chose qui lui donne vraiment de la joie, en fait, c'est cet animal. Et cet animal, c'est pas simplement un animal. C'est comme si, en fait, vous avez un chien, on vous l'a donné, et puis 15 ans après, on vous dit «
Bah, on va le reprendre, et maintenant, on va le tuer
!» Super, ça fait pas plaisir. Du coup, tu te bats, machin, etc. Mais donc, tout son parcours pour racheter sauver la vie de Okja, donc l'animal, est, bon, assez, pas incohérent, mais pas confus non plus, mais disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnages, le personnage de Gyllenhaal est un peu Osef total, moi, c'est vraiment un personnage que je trouve exécrable, etc., et pas très intéressant. Et après, t'as toutes les coulisses du militantisme, donc du groupe mené par Paul Dano, etc., qui essaye de sauver la situation, etc. Mais je trouve tout ça beau, bien mieux raconté que Snowpiercer, mais par contre peut-être un peu moins puissant. Par contre, toute la fin,
ça c'est, tu vois, vraiment... j'ai pas revu le film depuis, et la fin dans la baignoire, je m'en souviens encore, tu vois.
Bah, je m'en souvenais très peu, franchement, pour être très honnête. Et en fait, c'est là que, pour moi, le film, c'est ce que je disais, je trouve que vraiment les fins ou toutes les destinations, vraiment ce que veut raconter in fine Bong Joon-ho, sont beaucoup plus intéressantes que l'ensemble, enfin le corps, on va dire, de ces films. C'est vraiment une image, je trouve, abominable. C'est vraiment, voilà, ce qu'on fait vivre aux animaux, c'est exactement ce qu'on critique ou ce qu'on dit par rapport au camp de concentration de la Shoah, par exemple, etc., quoi. Oui. Globalement, hein, c'est littéralement, en fait, ils sont dans des camps de concentration, ils sont impuissants et on va les abattre. Et nous, bah, on s'en contentera parce que si on regarde ailleurs, de toute façon, on changera pas la donne, quoi. Et il y a vraiment une forme de fatalité dans l'idée de, en fait, bah, dans le système actuel, dans la manière dont les gens réagissent par rapport à tout ça, bah, il y a pas grand chose à faire, quoi. En fait, le système est tellement puissant et tourne tellement les yeux par rapport à cette problématique-là, de la cause animale, du spécisme, etc., voire du consumérisme en général, hein, d'ailleurs, ben, qu'on est vraiment impuissant et que les animaux sont condamnés, en fait, littéralement, à vivre juste pour être mangés ou pour être tués ou pour devenir une fourrure de je ne sais quoi, etc. Et je trouve ça vraiment terrifiant, d'où toute cette fin où, du coup, tu reviens vraiment à cette forme de paradis où autant rester loin de tout ça, en fait, de l'abondance, etc., et vivre dans une vie beaucoup plus simple. Ben, simple, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, au moins, il y a une forme de conscience tranquille, quoi.
Mais en même temps, tu reviens en sachant ce qui s'est passé.
Ah oui, bien sûr. Tu sais, est-ce que c'est encore un paradis? C'est un peu tout le sujet. Il y a une réplique assez intelligente là-dedans dans le film, qui est le grand-père, quand il se rend compte qu'il va devoir annoncer à sa petite fille qu'ils vont sacrifier son cochon adoré, il lui dit, bah voilà, t'es en train de devenir une femme, il faut que tu vois d'autres gens. Et le fait est que dans le film, elle devient une femme. C'est une expression horrible, évidemment, mais il y a un passage à l'âge adulte, et le passage à l'âge adulte, c'est pas aller batifoler avec les gens dans le village. Le passage à l'âge adulte, c'est se rendre compte que le monde, il est plus indorible, tu vois. C'est ça, le truc, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, à la fin, la communication entre elle et Okja est aussi un peu dans ce sens-là, quoi.
Ouais.
Voilà. Bon, moi, vous avez compris que j'adore ce film. Évidemment, c'est très particulier parce que je suis très attaché à la défense des animaux, on va dire. Et enfin, en vrai, franchement, tu sors de ce film-là, t'as la boule au ventre, quoi, tu vois. Ouais. Alors, c'est quand même un truc. Et d'ailleurs, quand ils ont fait le film, très soucieux, évidemment, de respecter certaines visions, Bong Joon-ho et son producteur sont allés visiter un abattoir dans le Colorado, et il en est devenu vegan pendant un paquet de temps après ça, ça l'a vraiment marqué. D'ailleurs, je vous invite à vous renseigner sur les conséquences psychologiques qu'ont les gens qui bossent dans les abattoirs, hein, qui vont du PTSD à différentes formes de problèmes, parce que oui, c'est une horreur sans nom. Alors, le parallèle avec l'Holocauste, etc., a toujours été un point, on va dire, de...
Ouais, de tension.
De tension.
Parce que j'avais même ressenti un peu à l'époque la vision à Cannes, mais en même temps, je m'étais dit, l'image est tellement forte et peut-être qu'on a besoin de passer par là, parce qu'en même temps, le parallèle est là, en fait. Hein.
C'est ça.
C'est plus, d'ailleurs, on a pensé les camps de concentration comme des abattoirs, donc le parallèle a aussi du sens. Hein.
Tout à fait. C'est une question très complexe, mais oui. S'il y a un point commun, bien sûr, c'est l'industrialisation de la vie, quoi.
Enfin, ouais, voilà, c'est ça.
Ce que c'est que la vie. Et pour moi, le film, bon, évidemment, montrer ça, c'est super fort, et la réalité, c'est que les abattoirs, c'est une horreur sans nom que très peu de films, en réalité, ont vraiment, auxquels très peu de films se sont vraiment intéressés, hein. C'est vraiment.
À part les docs, enfin, les documentaires,
à part
plutôt,
des documentaires,
mais,
bien sûr, ouais. Mais tu vois, quand tu vois le. Alors, c'est pas exactement sur les abattoirs, mais quand tu vois le retentissement qu'a eu Blackfish, par exemple, en tant que documentaire, tu te dis, c'est dingue que la fiction soit pas plus emparée de ce problème-là, qui est quand même mais, abominable. Et je trouve que le film est, au-delà de ça, évidemment, est assez génial dans la manière dont il raconte une époque actuelle où c'est pas juste une question de ce que tu consommes, etc., c'est juste une question de pub. Tout n'est que pub dans Okja, c'est vraiment. Et jusqu'à Okja lui-même, le film se met carrément en abîme, c'est-à-dire qu'à la fin, ce truc de t'as vu l'horreur, mais tu restes avec deux cochons qui ont miraculeusement survécu à ce truc-là, et ben en fait, tu fais comme tous les gens qui choisissent de regarder, enfin comme nous tous, hein, regarder la promotion plutôt que la réalité, que tu t'enfermes dans une sorte, comme tu dis, d'une sorte d'utopie, où bah ouais, bah c'est là, j'entends rien, tu vois, c'est un peu ça. Mmh. Et bon, du coup, les deux personnages joués par Tilda Swinton reflètent un peu ces deux facettes de cette industrie. Alors, t'as tout ce truc amusant où elle dit, ah, j'ai réussi un truc incroyable, c'est de montrer un cochon trop mignon sur un paquet et les gens vont en manger et ça c'est hyper pertinent, enfin c'est dingue, toutes les grosses marques de charcuterie etc, leur mascotte c'est toujours des cochons super gentils, super mignons, tu vois, c'est quand même dingue qu'une industrie réussisse à nous faire avaler un truc pareil dans tous les sens du terme, d'ailleurs c'est complètement surréaliste et ouais, le fait que le film se met lui-même en scène comme une manifestation hein, de ce truc là, du fait que tout n'est que histoire individuelle, finalement on retire la dimension collective, ça fonctionne extrêmement bien. Et on a ce film là, alors on en a parlé, moi je peux le parler avec Don't Look Up, on parle de ces films, beaucoup de gens ont critiqué en disant ouais c'est un peu grotesque, c'est
pas subtil,
caricatural,
ouais.
Bonjour, nous sommes en 2025, le personnage de Jake Gyllenhaal il est à la Maison Blanche et clairement le mec il avait vu le truc venir quoi.
Parce que ce qui est encore le sujet de débat aujourd'hui sur Mickey 17 et oui. le personnage de Mark Ruffalo façon Donald Trump,
oui.
C'est
explicite. À l'époque où il était écrit, il était peut-être un peu caricatural, mais aujourd'hui il l'est pas tant que ça.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est assez dingue.
Et puis je suis d'accord, et puis pour moi ça reflète effectivement donc l'amertume globale que t'as toujours chez Bong Joon-ho, même quand il, tu vois, dès Barking Dog, et qui, en fait, on a dans Snowpiercer ou dans tous les films qui ne se contentent jamais de garder ce côté un peu trop américain qu'on évoquait plus tôt. Et effectivement, là, tu évoques aussi, je pense, un des thèmes majeurs de sa filmographie, qui est cette industrialisation de la vie, alors qui, évidemment, sera majeur dans Mickey 17, qui est aussi là dans Snowpiercer, avec justement cette idée que si tu dois conserver le capitalisme, t'as cette autre expression qui a été très importante, qui a été évoquée, celle du nécro-capitalisme, qu'en fait, le capitalisme ne peut prospérer qu'à travers la valeur de la mort et donc notamment de la charge de travail qui mène à la mort des gens qui travaillent et aussi du coup bah, de la viande et de tout ça hein. Donc pour les animaux c'est évidemment ça, que le capitalisme est fatalement raccordé à la notion de mort, et c'est un truc qu'on voit beaucoup chez Bong Joon-ho et particulièrement dans Okja, alors qui effectivement tu vois limite ça m'a, de ce que vous en dites ça me donne très envie de le revoir parce que je l'ai pas revu depuis la sortie et je le trouvais justement peut-être un peu comme tu disais Alex, peut-être au milieu je le trouvais un peu confus, ce que sera aussi Mickey 17 pour moi, mais en même temps ça restait un film assez pertinent sur plein de choses.
Mais globalement, ce que tu disais, hein, c'est vraiment tout a une valeur. Et ce que raconte le film au global, c'est que le capitalisme n'a pas de conviction, puisque tout a une valeur, en fait. Mmh. Et en fait, peu importe ce que tu pourras me proposer, en fait, si l'argent derrière est suffisant ou si j'estime que ce que tu me donnes en échange est suffisant, je changerai d'avis. Et c'est vraiment terrifiant parce qu'en fait, je suis prêt à faire des concessions ou complètement changer la manière dont je pense juste parce que tu me donnes suffisamment d'argent, quoi.
Oui, t'as la séquence de fin. Alors évidemment, t'as le truc du fusil de Tchekhov génial, du cochon en or, oui. Où elle rachète le cochon. Et t'as le personnage de Paul Dano qui dit de façon hyper ridicule, comme il est d'ailleurs pendant à peu près tout le film, hein. Oui, de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, vous êtes le seul que je déteste et tout. Et en fait, il y a une vraie différence entre lui et elle, c'est que le personnage de Tilda Swinton, enfin la version méchante, on va dire, entre guillemets, enfin encore plus méchante, il n'éprouve pas de haine ni de compassion, en fait. Il n'y a pas de sens moral dans ce qu'elle fait. Elle s'en fout que ce mec la déteste, elle s'en fout qu'elle adore quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Non, il n'y a même plus d'humanité là-dedans. Il y a juste un rapport d'argent. Combien vaut ton cochon? Je l'achète, je l'achète pas. Quand bien même il est au bord de se faire flinguer, quand bien même il y a tout un truc derrière qui se crée. Non, pas du tout. Et On parlait du fait de subvertir un peu des trucs familiaux, etc. Pour moi, Okja, c'est celui qui le fait le mieux. Je sais que c'est pas le film le plus apprécié, mais ce film, vraiment, au début, tu t'amuses bien, c'est rigolo. Et là, mais il t'attrape, mais il te déglingue la gueule, quoi. Ça déconne pas. Et il y a notamment cette séquence qui je trouve absolument géniale, qui est la séquence où il diffuse les images d'horreur. Et dans n'importe quel film, puisque c'est un énorme cliché de cinéma hollywoodien, le simple fait de dénoncer ce qui se passe réellement dans le laboratoire aurait été une conclusion au film. Hein. Le grand public aurait été
horrifié,
etc. Comme dans beaucoup de films prennent ce principe-là. Mais non, on est chez Bong Joon-ho qui finalement, même s'il est très caricatural, représente une forme de réalité. Une réalité où des images d'abattoirs, on en voit toutes les semaines, mais personne n'en a rien à foutre.
Voilà, c'est ça. Je suis bien d'accord. Et enfin, du coup, alors, dans cette gloire un peu internationale, évidemment, on arrive au film de la consécration, Parasite, en 2019, alors qu'il non seulement... Alors, film purement coréen, là, pour le coup, mais qui repart Palme d'Or à Cannes, 4 Oscars, et donc ça, c'était une grande première, puisqu'il gagne meilleur scénario original, meilleur film étranger, mais aussi et surtout meilleur réalisateur et meilleur film. Une première pour un film non anglophone, donc ce qui en avait fait, voilà, pour beaucoup, le film qui l'a définitivement intronisé comme l'un des plus grands réalisateurs de la nouvelle vague coréenne et l'un des plus grands réalisateurs coréens tout court, avec du coup cette histoire de cette famille très pauvre, la famille Kim, qui s'infiltre petit à petit dans la famille Park, famille d'Aristo, avec le mec entrepreneur hyper friqué, pour prendre les métiers de gouvernante et de prof de dessin, chauffeur et tout ça, quitte à du coup virer les autres personnes qui ont cette place-là à la base, et voilà, de s'infiltrer dans cette famille-là pour avoir une place un peu tranquille, avant de se rendre compte que c'est évidemment plus compliqué que ça. Et je pense, pour l'avoir revu pour le coup, pour préparer cette revue, que c'est tellement le film de la quasi-perfection. T'as tout ce qui fait le génie de Bong Joon-ho qu'on a évoqué, il y a tous les motifs qui sont là. Je pense que c'est un peu, tu vois, évidemment la notion d'horizontalité et surtout de verticalité dans celui-là, puisque les Kim vivent dans une maison en rez-de-jardin, avec une fenêtre qui a la forme d'un cadre de cinéma en cinémascope. Ce que tu retrouves plus tard quand ils arrivent chez les Parks, donc ils vivent dans une immense villa en hauteur de ville, avec cette immense fenêtre qui donne sur leur immense jardin, qui est au même format en fait, donc les deux se conjuguent comme ça. Mais tu vois évidemment le parallèle et le fait que ce ne sont pas du tout les mêmes espaces, et surtout cette maison qui implique de monter dans la ville pour pouvoir y accéder, et qui va révéler plus tard un sous-sol, notamment une sorte de bunker souterrain qui cache de sombres secrets.
Pas vraiment tout, quoi.
Ouais, c'est ouais,
tant qu'à faire, hein.
Tant qu'à faire. Bon, voilà. Mais enfin, qui fait que c'est le film de la perfection dans sa critique sociale, évidemment, mais aussi et surtout dans l'idée, comme on le disait en fait, d'un système qui est tellement puissant et tellement horrible qu'en fait tu as ces personnages là que tu vois dans leur misère et tu comprends ce qui les pousse à agir, mais en fait il y a énormément de dommages collatéraux derrière ce qu'ils font, notamment le fait de faire virer pour des raisons, voilà, assez horribles les gens qui ont leur place à la base, hein, que ce soit le chauffeur ou la gouvernante. Ils trouvent une raison pour que les Parks les dégagent, et en même temps du coup il y a une violence qui va se révéler petit à petit, notamment contre les Parks, mais qui en fait c'est pas qu'elle est mal placée parce que les mecs sont absolument détestables et le père de famille notamment mérite clairement de crever en cours de route, mais le problème c'est tellement plus le système en général qui implique à ce que tous ces gens-là soient absolument atroces en fait. Tout le monde se retourne les uns contre les autres, et notamment les pauvres se retournent contre les pauvres plutôt que d'aller vers le vrai problème qui est encore au-dessus. Et ça, je trouve que c'est parce qu'il y a cette architecture hyper précise qu'il met en place dans la façon de filmer la maison, dans ses angles, dans ses escaliers, dans cette verticalité permanente, qui fait que le truc est d'une clarté absolue. Notamment, voilà, dans une séquence qui a été beaucoup discutée, qui est celle où ils arrivent à virer la gouvernante qui est allergique aux pêches, et donc ils arrivent à faire croire qu'elle est malade de la tuberculose grâce juste à ça, et tout est dans un montage d'une précision chirurgicale où tu les vois répéter leur stratagème pour la faire virer. Je trouve ça mais absolument fantastique, de précision dans le montage.
Ouais, moi je trouve que Parasite c'est un film, bon, tout a été dit dessus, hein, parce que petit film indépendant, pas très connu bien sûr, il a raflé la moitié des récompenses de la planète. En revoyant tous à la suite, j'adore, immense film bien sûr, mais c'est presque trop parfait, quoi. C'est-à-dire que le scénario, il est d'une maîtrise absolument délirante. Vraiment, il n'y a pas un fusil de Tchekhov qui rentre pas dans un autre truc. Vraiment, la manière dont ils évincent petit à petit tout ce qui gravite autour de la famille, de manière à ce que certains voient ce qui arrive et d'autres non. Enfin, c'est vraiment très, très bien foutu. La façon dont le twist est mis en scène, évidemment, la verticalité, etc. La maison, enfin, tout s'imbrique de façon parfaite. Et la mise en scène qui est, voilà, ce truc hyper cadré, comme la maison, en fait, hein, qui pousse complètement
là,
ce truc hyper brutaliste.
Parfaite de ce que tu as vu avant, de ce qu'on disait notamment dans la semaine dernière sur cette façon de gérer la linéarité des travelling, des trucs comme ça, qui là en fait tout se goupille parfaitement. Enfin, le montage est d'une fluidité absolument ahurissante et te fait passer beaucoup d'informations rapidement, qui effectivement font que des fois le fusil de Tchekhov il te le montre en un seul plan, et en fait tu l'as retenu, et quand ça débarque plus tard t'as eu le temps d'oublier entre guillemets, enfin de te faire avoir, et quand le truc débarque tu fais ah mais oui bien sûr.
Ouais. Non ça fonctionne trop bien. Quand on le revoit c'est assez kiffant, parce qu'évidemment du coup on peut noter toutes les subtilités que le scénario scénario et SM, il y a vraiment rien qui est laissé au hasard. C'est assez génial. Alors du coup, je trouve qu'on perd peut-être un peu du côté presque sauvage de Memories of Murder, quoi. Vraiment ce côté un peu vraiment crade profondément, qui moi est un truc qui me plaît beaucoup dans ce genre de cinéma. Après, évidemment, encore une fois, film qui est finalement très explicite sur ce qu'il veut raconter. Oui. On retrouve le thème de la désillusion, notamment à la fin, avec ce projet totalement impossible, évidemment. Le film est vraiment hyper cruel avec certains de ses personnages. Bon, évidemment, il y a la séquence du milieu qui est glorieusement à la fois, c'est un monument de suspense et d'humour, c'est assez fou. Donc, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Et je suis très étonné d'ailleurs qu'il ait fait Mickey 17 après un truc aussi inattaquable, en fait.
Bah, et en même temps, tu vois, enfin, c'est marrant que tu dis ça parce que ça amène aussi finalement, est-ce que c'est pas le film un peu ultime de la nouvelle vague coréenne? Parce que c'est à la fois, du coup, un film qui reste assez accessible, comme on le disait, et qui a tellement amené la confiance du public dans le fait que ce cinéma de rupture de ton, ce cinéma plutôt orienté du côté du genre, arrive à finalement évoquer énormément de questions sociales. En fait, comme on le disait, à la base, la nouvelle vague coréenne, c'était censé un peu cacher le genre derrière, justement, enfin, utiliser le genre pour cacher les problèmes sociétaux. Sauf qu'en fait, ce cinéma a toujours été assez explicite sur ses intentions. Et là, Parasite, c'est exactement ça. C'est un film qui commence comme une sorte de comédie sociale, un peu un film de casse, un peu thriller, qui évolue complètement en cours de route. Mais en fait, dès le départ, ses intentions satiriques sont hyper présentes et ne quitteront jamais le film, d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça aussi que tout le monde s'y est retrouvé, parce qu'on était dans une période où la question du hit the rich, hein, notamment, était assez présente chez d'autres cinéastes qui le traitaient de manière beaucoup moins subtile et beaucoup moins réussie, surtout. Et là, t'as un film qui arrive quand même à évoquer toutes les problématiques, parce que c'est pas juste les riches sont des gros connards qu'il faut absolument éviscérer et faut passer à la suite, comme tu le dis. Il y a cette question donc, de cette cave donc, dans laquelle l'ancienne gouvernante conserve son mari caché, qui respecte la réussite de l'entrepreneur qui vit dans cette maison-là.
Respecte
qui, respecte c'est absolument génial comme idée, qui amène surtout du coup les pauvres entre eux à s'entre-déchirer plutôt que de trouver entre guillemets le vrai problème qui est au-dessus en fait du système-là et qui amène le pour moi l'amertume ultime de Bong Joon-ho dans ce film-là, qui est que donc le père de la famille Kim, joué par Song Kang-ho, finit dans le dernier acte par lui-même prendre cette place-là, de se planquer dans ce sous-sol de la maison et de ne pas pouvoir en sortir, et de voir son fils qui espère pouvoir un jour en fait non pas faire exploser le système, de voir que toute cette architecture du système capitaliste qui est représentée par cette maison, plutôt que de le détruire, c'est en fait un jour, moi je vais devenir riche et je vais m'acheter cette maison-là pour pouvoir te libérer. Bah, et évidemment, c'est pas possible.
C'est Curtis dans Snowpiercer, tu vois.
C'est enfin, Curtis dans Snowpiercer.
Le daron, c'est les gamins qui font vivre la machine. Sauf que Parasite est plus cruel puisque nous ne sommes pas dans un train qu'il faudrait faire sauter, nous sommes dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, ben, faire sauter la société quand on est un gosse dans une famille pauvre, ben, en fait, c'est juste pas possible. Et du coup, oui, il ne peut que fantasmer évidemment de assez s'inscrire dans ce système-là pour parvenir à sauver les siens, quoi.
Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter sur Parasite. Je trouve que c'est peut-être ce que tu disais, c'est au-delà du fait que peut-être que ça soit trop parfait. Je pense pas qu'il soit trop parfait parce que je pense qu'il y a quelques défauts, mais je pense que c'est celui qui est le mieux rythmé en fait. Il y a pas un bout de gras, donc c'est peut-être ça qui fait sa perfection. Mais s'il y a un moment où tu te dis tiens, ça commence à vraiment le passage où ça y est, ils ont pris la place de tous les autres employés et ils s'installent et ils se disent on va faire la fête dans leur maison pendant qu'ils sont pas là, etc. Tu te dis ok, qu'est-ce qui va se passer en fait, parce que il reste une heure de film. Donc maintenant, ils ont accompli ce qu'ils cherchaient à faire a priori, c'est-à-dire trouver un métier qui leur donne un peu d'argent et réussir à toucher du doigt une forme de vie qu'ils espèrent atteindre vraiment. Et à partir de là, il vient te rebasculer encore une fois dans quelque chose de totalement nouveau et te montrer qu'en fait, le rêve, non seulement il est inatteignable, mais en plus, ton rêve, c'est un vrai cauchemar qui va se réaliser plutôt. Et je trouve ça vraiment passionnant et je trouve qu'en effet, il y a des trucs qui sont super dans la manière dont il joue vraiment sur le côté horreur. Je me souviens de m'être relevé de mon siège quand on commence à avoir l'ancienne gouvernante qui vient et qui commence à pousser ce meuble en étant à la verticale. Enfin, à l'horizontale, d'ailleurs, plutôt, on est en parallèle avec le sol, quoi. Ouais. Et je t'emmène, mais qu'est-ce qu'il se passe? Genre, ça me fait très, très peur. Et je trouve que c'est intéressant aussi de raconter le fait que il y a vraiment une chose que je trouve intéressant dans la manière juste dont est construite la maison. C'est vraiment l'image du capitalisme, ou en tout cas de l'élite, qui vit littéralement au-dessus des pauvres, sans s'en rendre compte, en fait. Sans savoir qu'elle les écrase, sans savoir qu'elle les empêche de voir la lumière, sans savoir qu'elle les empêche de manger à leur faim, ou même que c'est grâce à elles qu'elles vont pouvoir manger, etc.
Que ce qui est pour eux une petite plus rigolote, et pour les autres, une véritable catastrophe identitaire.
Et je trouve ça vraiment tellement intelligent, en fait. C'est peut-être pas très subtil dans l'idée, mais c'est tellement raconté de belle manière et de manière extrêmement fluide et extrêmement limpide que ça marche tout le temps, en fait.
Bah, c'est ce qu'on disait aussi sur Okja, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'est-ce qu'on montre. Tu vois, on en revient même à ce qu'on disait de Memories of Murder. Comment tu fais un film sur l'absence du fameux tueur? Comment tu construis sur le vide? Et là, ce qui est merveilleux, c'est que tout le long du film, pendant toute la première partie, il te montrera jamais. En fait, tu vois le fils la première fois sortir, donc déjà de ce de jardin avec donc ces escaliers, avec cet angle droit qu'il doit faire pour déjà s'extraire, tu vois, juste de leur maison et arriver au niveau de la rue. et ensuite monter petit à petit les échelons, mais t'as toujours l'ellipse en fait. Et quand ils ramènent la fille en taxi la première fois, enfin avec le chauffeur, tu vois pas où ils sont vraiment. Et il faut que t'attendes justement cette pluie torrentielle, ce moment au milieu du film où ils ont vu le twist, où il faut qu'ils sortent de la maison parce que les mecs sont revenus, et que du coup là tu les vois à pied refaire le trajet jusqu'à chez eux et descendre encore et encore et encore avec cette pluie torrentielle qui leur tombe dessus et ces plans merveilleux sur la ville avec que des escaliers et surtout ces poteaux électriques qui strient la ville et qui montrent voilà cette rue qui s'engorge d'eau qui va évidemment foutre en l'air leur appartement. Il y a un truc qui est enfin tétanisant parce que tu te dis bah oui en fait c'est l'évidence mais je l'avais pas vu venir. Et comme vous dites effectivement c'est cette pluie qui gâche le voyage au camping de cette famille aisée, ouais. Détruit la maison de ceux qui sont en bas de l'échelle sociale.
Et puis tu parlais du paradis de l'enfer dans Okja, ils passent de l'un à l'autre en une séquence.
Ouais, c'est ça. C'est... Clairement. Et encore, tu dis, ça gâche leur camping. Le gamin reste quand même dormir dehors parce qu'ils peuvent se permettre de faire du camping chez eux, eux, contrairement au reste du monde. Donc, voilà.
Oui, l'ironie qu'ils partent au camping alors qu'ils ont un jardin gigantesque.
Oui.
Après, on peut partir au camping même si on est riche, je pense. Mais c'est
non,
vrai
non,
que
non,
c'est
tu un... devrais rester chez toi pour camper.
Mais c'est intéressant qu'au final, bon, mine de rien, le entre guillemets rêve du gosse est réalisé. Et puis, peu importe quoi qu'il arrive dans le monde, en fait, ces gens vont pouvoir changer leur plan. C'est-à-dire que le malheur ne leur arrive pas, ou alors par des conséquences qui... Enfin, parce qu'il y a une forme de rébellion de notre caste, mais entre guillemets, ils étaient censés partir au camping, etc. Ils se disaient, voilà. Et puis, même, tu vois, tout le film raconte littéralement ça, c'est que bah ils ont perdu une gouvernante, bah, c'est pas grave, ils en retrouveront une autre. Ils perdent leur chauffeur, bah, c'est pas grave, ils en retrouveront un autre. Ils perdent une prof, bah, c'est pas grave, ils en retrouveront une autre, etc., etc. Ils peuvent même pas aller au camping, c'est pas grave, le gosse on le mettra dehors. Il pourra pas faire son anniversaire là-bas, c'est pas grave, on organise un à la volée, etc. Et c'est que comme ça. On doit quitter cette maison parce que les événements sont arrivés, etc.
C'est pas grave, on mettra d'autres gens.
On mettra d'autres
plus,
gens.
Ça c'est très intéressant. Et des étrangers qui viennent d'arriver en Corée, qui sont allemands, je crois. Du coup, ils arrivent justement, l'agente immobilière arrive à les mettre là parce qu'elle arrive à leur mitonner et ne pas trop raconter ce qui s'est passé dans la maison. Et t'as cette idée-là du système qui a vraiment pris la place. Et en plus, là, du coup, il est tellement mondialisé que c'est même plus juste le problème de la Corée, c'est le problème du monde en général. Et bah, d'autres gens prennent cette baraque-là comme voilà. Et moi, il y a ce truc vraiment, ce détail, j'avais oublié, mais ce moment où le fils, quand il voit la fête se faire, qui a été faite à l'improviste et qui dit ça a été à la dernière minute, mais ils sont quand même cool, tu vois, ils sont bien habillés. Il y a ce truc-là de ce décalage aussi,
ouais,
de
ça,
eux
ouais.
qui sont en galère après, d'ailleurs, la torrent qu'ils sont bouffés, de devoir trouver des vêtements pour juste pouvoir venir paraître à peu près correct à l'anniversaire, alors que bah, ces gens très riches, ils arrivent avec leur violoncelle et tout ça. Ouais. Et
puis t'as la femme faussement gentille qui dit oh, mais tu peux venir en jogging, t'inquiète pas. Et puis évidemment, tout le monde est sapé comme jamais, tu vois,
ouais.
Parce qu'en vrai, non, évidemment que les gens vont pas venir au jogging.
Bah, c'est ça, et je trouve que c'est la tragédie que ce film la raconte, qui est peut-être ce qui a autant marqué les gens au moment où il est sorti, peut-être, qui était cette façon vraiment de se dire il y a encore une échelle sociale. Là, en plus, il te la montre assez explicitement. Tous les personnages y croient encore, en fait, à cette structure-là, alors non. Et dans Snowpiercer, il la faisait péter. Là, non, il ne la fait pas péter. Et je trouve que pour un film qui est sorti la même année qu'un Joker ou que d'autres films un peu très identifiés de cette période-là, sur ces sujets-là, bon, non seulement c'est le meilleur dans sa catégorie, je pense, mais c'est assez révélateur aussi de ce besoin de rébellion, mais un peu avorté, que Bong Joon-ho a souvent observé de manière assez désespérée.
Quelle ironie qu'il ait été applaudi pendant cette soirée des Oscars par à peu près 90% de gens qui sont dans la même situation que les personnages de riches du film. J'ai
oui,
trouvé
voilà.
ça assez...
Mais on pourra aussi dire que c'est ce qui lui permettra, donc le succès immense de Parasite, d'avoir le budget et le studio hollywoodien pour faire plus tard Mickey 17, son premier vrai blockbuster hollywoodien. Donc je vous propose qu'on s'arrête là, Alexandre et Mathieu, et qu'on reprenne la semaine prochaine pour parler exclusivement justement de Mickey 17, qui nous a un tout petit peu divisé comme on a pu déjà l'exprimer ici. Mais c'est juste dommage que...
Les contestataires sont mis de côté, donc tout va bien, c'est pas
de
problème.
Non, parce que ça sera Déborah qui est un peu comme toi, je crois. Donc c'est juste dommage, malheureusement, que ces réunions passionnantes entre nous ne deviennent pas des podcasts cinéma, parce qu'en plus je suis sûr que dans cette période de dystopie qui est la nôtre, c'est exactement dont le monde a besoin, j'en suis sûr et certain. Mais il faudrait pour ça aussi que les gens ils nous écoutent, qu'ils s'abonnent, qu'ils commentent, qu'ils choisissent de mettre 5 étoiles sur leur appui d'écoute pour nous soutenir, et nous en échange, évidemment, on les en remercierait, parce que c'est très sympa et qu'on est des gens très sympas, nous aussi.
Oui, tout à fait.